les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour. Vous écoutez les ondes buissonnières sur Radio Saint-Fée. Dans les ondes buissonnières, on diffuse des choses qu'on aime bien. Aujourd'hui, c'est un documentaire, c'est une création sonore que je vais vous faire écouter. Création sonore qui est signée par plusieurs personnes. Il est proposé par les élèves du CLEPT, Collège Lycée Élitaire pour Tous, qui se trouve à Grenoble, à La Villeneuve. Il a été réalisé avec le soutien d'Isabelle Stragliati. Isabelle interviendra à la suite de l'écoute de ce documentaire pour raconter un petit peu les coulisses, comment il s'est fabriqué ce documentaire, mais d'abord on l'écoute. Il s'appelle Zoom Zoom Zen.
Nous sommes à Grenoble, le Chicago français. Ici, dans le quartier chaud de la Villeneuve, délinquants et chômeurs tiennent les murs de la cité. La nuit, les voitures brûlent. Le jour, les insultes fusent. Au milieu de cette jungle urbaine, le CLEPT. Repère d'élèves décrocheurs et feignants. Ils ont quitté l'école parce qu'ils ne voulaient plus rien faire.
Rappelle-toi, c'était ce matin ou il y a 20 ans. Il est 7h37, il fait froid, tu as la tête dans le cul. Tu attends le bus qui te déposera devant la grille du lycée. De trois choses l'une, tu es brillant et tu sors sur la vague du programme sans te poser de questions. Tu es moyen et tu navigues à vue en essayant tant bien que mal de répondre aux attentes de tes profs. Ou bien tu rames, et la barque prend l'eau. Tu tentes décoper en vain, mais tu coules. Alors tu cherches de l'oxygène et tu vas manquer un cours, puis deux, puis une journée, puis deux. Tu largues les amarres, tu t'éloignes de l'école jusqu'à qu'elle semble hors de portée. On appelle ça le décrochage, une réalité restée longtemps taboue dans l'éducation nationale. Zoom sur des profs qui ont refusé cette fatalité. Zoom sur ces jeunes qui ont eu le courage de quitter l'école et l'audace de chercher à retrouver son chemin. Zoom sur un dispositif unique en France qui permet à ceux qui le souhaitent d'embarquer vers un nouveau départ. Zoom Zoom Zen, l'émission qui fait plaisir et qui rend zen, t'emmène à Grenoble, au cœur du CLEPT, Collège Lycée Élitaire pour Tous, qui fête ses 20 ans cette année.
On a fait quoi la semaine dernière?
Rien.
Rien. Rien.
Rien.
Rien. Dorcas, t'as une idée? C'est passé dans une oreille, c'est ressorti par l'autre ou... T'es pas d'humeur? D'accord, donc je te laisse un peu tranquille, c'est ça? Daniel.
Moi aussi, je suis pas d'humeur.
Oh, Daniel, arrête n'importe quoi.
Alors, du coup, Ina, t'es pas d'humeur, Madiane, t'es pas d'humeur, Et justement, là, on essaie de changer d'humeur et de dans un cours, du coup, on change d'atmosphère, on change de ce qui nous fracasse ou ce qui nous empêche. Voilà, on essaie de s'ouvrir à d'autres choses. Julia, tu veux la main plus tard, ouais? On a fait deux choses principales.
Une définition du CLEPT, eh bien, c'est une école publique qui accueille des jeunes qui n'ont pas été jusqu'au bout de la scolarité ou de la formation qu'ils souhaitaient et qui souhaitent reprendre.
Donc on est sur la démarche scientifique, mais la semaine dernière, on a vu vraiment deux choses très distinctes.
Déductible.
Oui, donc ça, c'est la démarche scientifique. Du coup, avec une hypothèse de départ, et puis on va aller vers des conclusions. On a fait deux exemples, Kylian.
Bah justement, l'exemple, on avait vu l'exemple du logistique.
On a vu l'exemple du logistique en deuxième partie.
Et okay. On avait vu la méthode, Ouais, si, est-ce qu'on avait vu? Est-ce que c'était ça? Le deuxième exemple, c'était la méthode de Lavoisier?
Oui, c'était une logistique, PS, principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Oui, voilà.
Ok.
Tout le monde sait ce que ça veut dire, PS?
Versus.
C'est-à-dire contre, quoi.
Versus.
Une opposition.
Par exemple, Daniel versus Dorcas, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui va avoir entre Dorcas et Daniel.
C'est une opposition.
C'est
une opposition.
D'accord.
Ah,
je
pense
qu'on
fait
le combat, là.
Je m'appelle Marie-Cécile Bloch. Je suis à l'origine, avec Bernard Gère, de la création d'abord d'une association qui s'appelle La Boutue. En 1996, et cette association avait pour objet à ce moment-là de faire ce qu'il fallait pour que l'éducation nationale ouvre un établissement, lequel établissement a ouvert effectivement en 2000, le collège lycée littéraire pour tous.
Mais alors, élitaire, ça veut dire quoi?
Ça, je ne sais pas.
Pour moi, c'est ouvert à tous.
Je ne me suis jamais posé la question.
J'ai toujours vu une contradiction. Élitaire, pour moi, c'est l'élite, donc des gens qui ont été choisis, donc en contradiction avec le pour tous.
Mais ça, c'est élitiste, non?
C'est un mot que Bernard Gerd et Marie-Cécile Bloch ont emprunté à Antoine Vitez.
Antoine Vitez?
Oui, c'est un homme de théâtre. Il a joué un grand rôle dans la démocratisation de l'accès à la culture. Il disait qu'il voulait faire un théâtre élitaire pour tous, pour lutter contre le fait que, pour le peuple, on proposait du théâtre de boulevard, et pour les autres, le plaisir de Shakespeare. Pour dire autrement, il a voulu donner ce qui était alors réservé à une élite à tout le monde.
C'est beau.
Alors cette idée, elle vient de nos pratiques. Je vais parler de Bernard Gerd et de moi, parce que ça a été vraiment parallèle. On s'est rencontrés parce qu'on était tous les deux professeurs, mais surtout, on n'enseignait pas dans les mêmes établissements. Mais on était tous les deux dans un même groupe de formateurs pour professeurs de l'éducation nationale. Un groupe qui s'appelait « Réussir autrement avec les jeunes en difficulté ». Et puis, donc, ce qu'on voyait quand on rencontrait des collègues dans différents types d'établissements, il y avait un certain nombre de jeunes qui disparaissaient des classes, et puis on en a eu aussi dans nos classes. Et donc, tous ces jeunes qui disparaissaient sans crier gare, on en connaissait aussi dans notre entourage proche. Et on s'est mis à réfléchir à « mais en fait, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce que... est-ce qu'ils n'ont plus envie d'école, ou est-ce que c'est cette école-là qui leur fait sentir qu'elle n'a pas besoin d'eux et qu'elle ne veut pas les garder? Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à réfléchir à un projet.
En primaire, ça allait. En sixième, j'ai vécu sur mes bases de primaire. Ça allait sans enthousiasme. Les profs ne m'aimaient pas, j'étais toujours dans le collimateur. Et j'ai donc pris l'habitude de me faire engueuler. À la fin d'un cinquième, j'ai obtenu passage en quatrième. Et là, je ne m'entendais ni avec ma classe, ni avec mes profs. Je redouble, mais c'est encore pire. Et je passe finalement en troisième avec 7,5 de moyenne. Je sèche beaucoup, je vais au brevet sans l'avoir préparé, et je le rate. Je suis orientée en BEP secrétariat. Première année de BEP, ce qui me plaisait, c'était les disciplines qui n'avaient aucun rapport avec le secrétariat. Car pour la première fois, j'avais le niveau. J'ai tenu une année, mais j'ai décroché à la rentrée de la seconde année. C'était trop violent. J'ai officiellement démissionné en décembre. Le lendemain de mes 18 ans, je suis allée travailler à la caisse de Carrefour. Plus tard, j'ai eu envie de reprendre l'école.
Bernard et moi, comme on était formateurs dans l'académie, on connaissait quand même beaucoup de gens dans le milieu de l'éducation nationale. On a rédigé un avant-projet. Et on a réussi à faire que cet avant-projet soit sur le bureau du recteur à un moment donné. Et coup de peau, le recteur, c'était un jeune recteur, il venait d'arriver, il n'avait jamais été recteur avant, hein, c'était un professeur d'université. Et il se trouve que ce jeune recteur qui venait d'arriver, qui n'avait pas encore été trop formaté, on va dire, eh bien, il sortait d'une réunion avec un ministre. Le ministre, c'était M. Bérou à l'époque. C'est toujours le même, hein, celui qui est au Modem, qui est maire de Pau. Et il était ministre, et c'était une époque où il y avait pas mal de collèges qui brûlaient, il y avait pas mal d'agitation, hein, dans les quartiers en particulier, puis dans les lycées professionnels, ça bougeait pas mal. Et il avait réuni les recteurs, comme font les ministres régulièrement. Et il leur avait dit, il faut que vous trouviez des pépites dans vos académies. Il y a sûrement des gens qui veulent faire des choses. Et donc, nous, on lui a amené une pépite. Donc, il s'est dit, tiens, j'ai une pépite, comme m'a demandé le ministre. Et il nous a missionné à ce moment-là, Bernard et moi, pour un an, pour faire l'étude de faisabilité du lycée Littère pour tous. Parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de collégiens décrocheurs. En fait, on ne parlait que des lycéens. C'était interdit même de parler de collégiens décrocheurs, parce que comme ils n'avaient pas 16 ans, ben, en principe, ils étaient sous obligation scolaire. Donc, légalement, ils n'étaient pas décrocheurs. Et donc, personne n'en parlait, alors qu'il y en avait déjà, hein, des collégiens décrocheurs. Voilà, ça a été le début de l'aventure, ça. Après, ça a été très, très long.
Le Clepte, bonjour. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Donc déjà, est-ce que vous avez contacté la bouture? Non? Non, alors en fait, c'est une association avec qui on travaille. Et c'est elle qui s'occupe de faire l'accueil des jeunes en errance qui vivent un décrochage. Là, votre fils, ça fait combien de temps qu'il est décrocheur? Ça fait 6 mois. Il est déscolarisé officiellement depuis 6 mois. D'accord, parce que ouais, c'est une règle qui plane sur nous et qu'on doit respecter. Il faut qu'il y ait un minimum de 6 mois de décrochage pour pouvoir venir au CLEPT. Donc, nous, ce qu'on veut aussi, c'est que les jeunes soient volontaires. Donc là, vous nous appelez aujourd'hui, mais lui, il est en adhésion avec cette démarche. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'appeler la bouture, qui pourra vous recevoir, donc déjà votre fils, et puis vous aussi, vous pouvez être reçu. Donc je vous donne le numéro de la bouture.
Je m'appelle Émilie Forêt, et j'enseigne au CLEPT depuis 5 ans.
Et Émilie, est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type que tu vis au CLEPT?
Une journée type, c'est une journée où on passe notre temps à changer de casquette, c'est-à-dire que je suis prof de français, et puis après, je vais chercher les élèves qui traînent dehors pour qu'ils aillent en cours. Et puis j'appelle ceux qui sont absents, je réponds au téléphone. J'essaie de comprendre pourquoi il y a un élève qui est sorti de cours, essayer de faire en sorte qu'il retourne au cours d'après. C'est à la fois être prof, être CPE, être surveillant. Et ça, bon, ça fait partie des forces du club. On a vraiment voulu que les profs assument toutes les fonctions et tous les métiers qui, d'habitude, sont incarnés par tout un tas de gens pour qu'il y ait plus de cohérence, plus de continuité. Et puis aussi, c'est hyper fort en tant qu'enseignant. Nous, par exemple, quand on est de couloir et qu'on vous voit individuellement, qu'on vous aide à, je sais pas, dans des travaux, qu'on recueille vos impressions quand vous tenez plus en cours, ça permet de développer des relations qui sont assez fortes, qui sont individuelles.
Mais l'année prochaine, on m'envoie au théâtre, tu ne vas pas aller. Hein.
Mais pourquoi on t'envoie quelque part? On ne t'envoie nulle part puisqu'on te demande de faire des vœux. Tu commences par faire tes vœux, tu as 8 ateliers, tu en choisis 3. De toute façon, il n'y a aucune urgence. Et puis, on te félicite d'avoir appris ton texte. Hein, parce que ça, du coup, tu as plus de plaisir d'être en jeu aussi quand tu as
appris. Tu as appris ton texte?
Parfaitement. Tout son texte.
Bah, bravo.
Et puis, tu es physiquement beaucoup plus en forme. Parce que n'oublie pas quand même que tu as...
Après, on nous a renvoyés dans nos bahuts, on nous a dit que non, c'était finalement que ça n'intéressait plus personne, etc., etc. Et l'association La Bouture a développé des tas de choses, a organisé des colloques, a écrit, on a fait des études, enfin bref, on a fait parler de tout ça dans les médias, on s'est entouré d'un conseil scientifique avec des universitaires, et bon, on a milité pendant 4 ans, et finalement, ben voilà, finalement, une opportunité qui a fait que un nouveau ministre est arrivé, Jack Lang, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale. Et il se trouve qu'il a pris dans son cabinet un directeur adjoint de cabinet qui nous connaissait. Parce que lui, il avait été patron de l'Institut national de recherche pédagogique. Et on avait travaillé avec lui sur les processus de décrochage scolaire. Il nous trouvait intéressants, il trouvait qu'on était sérieux. Et il a dit au ministre, « Ah, là-bas, à Grenoble, il y a des gens qui... » Et c'est comme ça que le CLEPT a pu ouvrir. Entre-temps, le collège, était sorti. Il y avait eu enfin des publications sur le fait que, oui, il y avait des collégiens qui étaient encore sous obligation scolaire et qui pourtant décrochaient.
Moi, avant, j'étais, J'étais assez mal à l'aise dans les moments informels avec les élèves. Je les esquivais un petit peu, j'étais dans mon rôle de prof et j'aimais pas trop creuser, pas trop approfondir. Si je les croisais dans la rue, limite, je les esquivais ou je leur disais bonjour très rapidement. Mais j'avais trop l'impression de devoir jouer un rôle, de faire partie d'un système qui était complètement déshumanisé et de pas pouvoir être moi en tant que personne. Et au club, je trouve que c'est ce qu'il y a de très fort. Après... moi, ce qui a radicalement changé aussi dans ma manière d'être prof, c'est la construction des cours. Moi, auparavant, je préparais tous mes cours au millimètre et en fait, j'étais hyper directive, c'est-à-dire que j'avais une idée, des phrases en tête et il fallait que je les plaque et que mes cours ils se construisent à partir de ce support-là. Et j'ai vraiment appris au CLEPT en ayant plus confiance dans la relation que j'avais avec les élèves à lâcher prise, c'est-à-dire que moi, j'ai en tête mon cours, je sais où je veux aller. Mais je laisse plus de place à l'imprévu, à la co-construction, à vos réactions. Et ça, je les intègre. Et en fait, du coup, je vois qu'avec un même texte, je peux faire deux cours qui sont différents dans le cheminement. Après, il va y avoir des essentiels que je ne vais pas pouvoir sacrifier. Mais je pense que ça, c'est ce qui change radicalement. C'est que... ici, il y a du sens à la fois dans la relation humaine et puis il y a du sens aussi dans la construction des connaissances et la construction du cours.
Ok, donc on va écouter la canción. Primero, sin la letra. ¿Qué significa la letra?
La letra.
No.
La letra.
Una canción con letra. ¿Qué significa una canción?
Une
chanson. Une chanson.
Lyrique. Ah, les paroles.
Eso es. La letra significa les paroles. C'est un mot qu'on a vu dans le dossier Volver quand on a travaillé au départ sur la chanson du flamenco.
On ne dit pas paroles.
Ça n'existe pas, non. En italien, parole. Ou je ne sais pas comment ça se prononce.
Il n'y a pas de profil type de décrocheur. Il y a des facteurs qu'on retrouve assez souvent. Donc il y a une somme de facteurs qu'on a effectivement analysés. Alors il y a des facteurs extrascolaires. Et puis, il y a des facteurs scolaires. Et nous, on ne s'est intéressé qu'aux facteurs scolaires. Parce que les facteurs extrascolaires, en tant que professionnel d'éducation, on n'a pas la main dessus. Donc, on a effectivement mis à jour, grâce aux jeunes qu'on a rencontrés et qu'on a écoutés, et à travers ce qu'ils nous disaient, eh bien, on a pu faire une sorte de radiographie des insuffisances de l'école qui sont à l'origine du décrochage scolaire.
Bah, un décrocheur, je dirais que c'est plus quelqu'un qui a suivi un parcours qui lui correspond pas. Comme moi, j'ai fait un bac pro, mais c'était pas mon truc. En plus de ça, les profs, ils ont pas vraiment le temps. Donc tu te sens un peu mis à l'écart. On est là de 8h jusqu'à presque 18h, mais ça fait pas sens. On est là pour rien et ça va pas nous servir à grand chose. Et donc tu dis que t'as pas ta place à être là et tu quittes. Et après, tu la retrouves pas vraiment la place jusqu'à venir ici.
Piste 13, porte fermée.
Le décrochage scolaire, c'est... je sais pas comment le définir, mais je dirais que c'est juste... on arrête de suivre et on décroche, un peu comme en escalade. Tu vas te décrocher de la paroi où t'es et tu vas soit tomber, soit tu... et avec... soit t'as la force de te relever parce que t'es pas trop haut, soit... ben, t'as juste... t'as décroché, quoi, enfin... t'es plus dedans, t'es plus sur la voie à suivre, enfin, voilà, qu'on t'a imposé.
Et qu'est-ce qui est différent au CLEPT par rapport aux autres établissements que t'as pu fréquenter ?
Déjà, je dirais, la première différence qui m'a un peu choqué, c'est la proximité avec les profs. Tu vois, il y a une écoute. Alors qu'un prof dans un établissement classique, tu vois, il va te dire... ouais, bah attends une semaine que je te réponde, ou je sais pas quoi. Alors qu'ici, tu vois, t'as une réponse claire, tu peux parler sans. Avec transparence. Ici, on prend le temps. Alors qu'en établissement, j'étais en lacune, et pourtant, y a pas vraiment d'aide. C'est je pose le cours, et si t'arrives pas à suivre, demande, et si tu arrives pas, tant pis.
Déjà, l'ambiance générale, c'est pas la même que dans un lycée classique, d'après moi. En fait, le lien entre les professeurs et les élèves, il n'est pas le même. Ils n'ont pas la même approche, en fait, avec les élèves, en fait. C'est bien plus basé sur la confiance mutuelle, en fait, je dirais. Bon, après, des fois, je dirais pas que c'est lourd ou quoi, mais je dirais plutôt que... Bah, en fait, comparé aux établissements classiques, des fois, ils vont être sur notre dos plus souvent, c'est vrai, mais pour notre bien, et du coup, ça se ressent, et ça donne envie, du coup, d'être là et de les aider dans leur mission qu'ils sont fixés ou leur objectif. Enfin, appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Pour moi, ce qui fait une grande partie des choses, en fait, c'est le relationnel. Et du coup, si les professeurs, ils arrivent à garder des bonnes relations avec les élèves, je pense que... En fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en soi.
Piste 3, pas tous ensemble.
Nous, on est un petit peu à égalité avec vous. Par exemple, en atelier, moi, j'ai appris à me servir du logiciel, à créer des sons en même temps que vous.
Tu peux nous dire ce que tu es en train de faire ?
Je voudrais enlever un bout de ce son. Un
bout de ce son ?
Ouais.
Ah, et comment tu fais alors ?
Faut que je calcule pile au bon moment. On est égalité et je trouve que ça change. Ça change aussi beaucoup le regard que vous avez sur nous. Je pense que ça vous rassure et que vous nous voyez comme des personnes qui sont en train d'apprendre, comme vous. Je pense que ça, c'est hyper rassurant. Et donc, une journée type de prof, c'est pas une journée où on va juste transmettre un savoir et enseigner, mais aussi c'est une journée où on va apprendre des trucs. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force du CLEP, et c'est ce qui fait que, même si, on le répète souvent, les journées, elles sont longues, en fait, on donne de nous-mêmes, mais on se sent pas juste fatigué quand on rentre chez soi, mais on se sent aussi plus riche que quand on est parti.
Et du coup, je pense que tu peux avoir, par rapport à Marion, quelqu'un qui est en rage et qui a envie de crier au monde quelque chose, il assène des coups, mais c'est pas une colère... Tu vois, c'est bah bah. Tu vois, c'est coup par coup, tu vois. C'est vraiment une éducation relationnelle, c'est entonnoir.
D'accord.
Quand tu te retrouves dans une filière, la cuisine par exemple, on t'apprend plus que ce qui est directement lié à la cuisine.
Normalement, tu as le droit à une éducation avec un grand E. Tu as le droit à ce qu'on appelle la culture générale.
Mais non.
Tu vas exclusivement écrire tes menus, tes recettes et des fiches de cuisine. C'est ça l'effet entonnoir. Une fois installé dans une filière, tout est fait ensuite pour que tu restes en bas et que tu n'aies accès à rien. C'est à ce moment qu'on nous coupe. Pas de culture, pas d'ouverture à des visions différentes, rien. On nous enferme dans des petites cases étriquées. Et ça, c'est scandaleux. Ça fait hurler.
Ah merde, ça enregistrait pas.
Un truc qui, moi, me semble fondamental, c'est qu'on ne peut pas apprendre sans se tromper. Celui qui se trompe jamais, il apprend pas, il sait. Or, l'école, c'est un lieu où on doit apprendre. Donc forcément, le statut de l'erreur, de se tromper, eh bien, doit être accueilli, travaillé, réfléchi, et pas uniquement, t'as faux, voilà.
Quand j'étais en primaire et au collège, les profs m'ont souvent traité comme si j'étais idiote. On m'a fait comprendre que je n'étais pas très intelligente et que j'y arriverais pas. C'est pour ça que c'était important pour moi le bac. Si ça a été possible au CLEPT, c'est que je m'y sentais bien. J'étais bien traitée. J'avais pas l'impression que les profs nous écrasaient sous leur savoir. Je dois dire que depuis que j'allais à l'école, c'était la première fois que j'écoutais vraiment les cours. On avait le temps d'apprendre, et si on n'avait pas compris, on pouvait revenir dessus. Et ça, dans un établissement normal, c'est pas possible. C'est un peu marche ou crève.
Oui, bonjour Adam, c'est Émilie du CLEPT.
Ouais.
Comment ça va ?
Ça va.
Ça va ?
Ouais.
Bon, on est hyper déçus, là, parce que tu nous manques en atelier.
Non.
Bah ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, alors, cet après-midi ?
Je dormais.
Ah. Et donc, maintenant que t'es réveillé, tu peux venir en atelier ?
Là, je suis un peu loin.
T'es où ?
Bah, pas loin de chez moi.
Bah, écoute, tu mets tes chaussures et puis tu viens.
L'importance aussi du fait que chacun est singulier, mais que c'est avec les autres qu'on construit à la fois son rapport aux connaissances, son rapport au monde, et que donc c'est bien une affaire collective où chaque singularité est là et enrichit le collectif.
Dis-le avec ton accent quand tu parles avec Théo, toi et Théo.
Avec mon accent,
l'accent russe.
Bonjour.
Non, on a tellement des accents russes.
Quel accent? Russe? Tu veux le russe? Il fait tout, hein.
Il a dit qu'il parlait pas russe.
Italien, il fait tout, lui, hein.
Tu veux bah, moi, je dirais italien, allez.
Allez, vas-y.
Italien?
Non, italien.
Je vais faire le padre.
Le padre. Bienvenue au Klept.
Et à partir de quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est raccroché? Qu'est-ce qui permet de se dire, là, j'ai raccroché?
Eh ben, j'ai envie de dire qu'on ne peut jamais réellement dire qu'on a raccroché réellement, en fait. Peut-être qu'on peut accrocher, mais pas raccrocher, parce que à chaque fois, c'est toujours quelque chose de nouveau, en fait, dans l'apprentissage. Enfin, pour moi, le décrochage, il est beaucoup... Enfin, le décrochage scolaire, en tout cas, c'est beaucoup sur l'apprentissage. Et du coup... Ben, en fait, on peut que accrocher à certains types d'apprentissage, j'ai envie de dire.
T'as un enregistrement, là?
Ouais.
Mais avec moi qui parle derrière?
Je crois pas qu'on t'entend. Hein.
T'es sûr? J'étais en train de faire ça, j'avais pas capté que t'enregistrais.
Ah, mais je crois pas qu'on t'entend.
En vrai, il peut faire des jeux de son, regarde.
Okay. Avec? Ah, mais faut la resserrer, la carte.
Elle, je peux pas la resserrer, elle est morte. C'est elle que tu resserres. J'ai peur de la casser, tu sais, comme c'est vieux.
Aujourd'hui, je peux dire que le CLEP m'a construite. Il m'a sauvé la vie, même. Beaucoup de choses ont changé. Mon rapport à mes cours, mon rapport à l'apprentissage, mon rapport à la vie. C'est une réconciliation. Quand je dis réconciliation, là, on peut partir loin. Je me rappelle, avant d'arriver au CLEP, j'étais en ZEP, et j'étais complètement en lutte avec le monde scolaire. Pourquoi on m'impose ça? Pourquoi on me formate le cerveau? Pourquoi je dois passer 8 heures sur une chaise sans rien dire? J'étais en rébellion. Et quand un prof venait me voir et me demandait « Sandrine, tu as fait ton devoir ?» C'est avec un grand sourire que je lui disais « Non, et tu vas te le mettre bien profond. » Et j'étais contente. Quand je suis arrivée au CLEPT, avec la dynamique d'apprentissage collectif qu'il y a, avec les profs qui se bougent pour nous sortir de là, on est venu me voir et on m'a dit à nouveau « Sandrine, tu as fait ton devoir ?» Et là encore, j'ai dit non. Et pour la première fois, je me suis sentie comme une conne. J'ai compris que les profs du CLEPT étaient là pour m'aider. Au lieu de faire contre, j'ai fait avec. C'est là qu'il y a eu réconciliation avec le monde scolaire et avec l'apprentissage.
Et ça raconte quoi
Ça raconte l'histoire d'un homme très séduisant, mais horrible intérieurement, qui veut réussir et qui veut devenir plus puissant et mener une ascension sociale. Donc là, nous, ce qu'on a lu ensemble, on est au tout début, il commence un tout petit peu à s'introduire dans le monde du journalisme. Et on va voir s'il y arrive ou pas, du coup. S'il arrive à mener à bien ses objectifs.
Ça a l'air cool.
Enfin, c'est trop bien.
Et c'est quoi le livre?
C'est Belle Amie de Guy de Maupassant.
D'accord.
Grand roman publié en 1885.
On a compris quoi?
On a compris que c'était l'électron, il passait dans un trou.
Il n'y a pas d'histoire d'électron, en vrai.
Il y a des trous.
Ce qui m'a le plus motivé, moi, c'était, on va dire, un peu une revanche. Tu vois, quand il y a un conseiller d'orientation qui te dit « Ouais, t'es pas mauvais, mais t'as pas ta place en général. » Et je suis en train de me dire que là, je suis en général, tu vois. Je me dis, bah finalement, bah voilà, je lui ai montré que j'étais capable, en fait. Que j'avais des capacités et qu'il fallait juste les exploiter.
Oh, cogno, t'as pas compris, hein? Allez-y, les gars. Je veux pas qu'ils viennent nous chercher pour nous dire, bah, on vous a donné gentiment 10 minutes, vous avez abusé.
Mais moi, franchement, ça marquera toujours, ce passage au CLEPT. Parce que si je n'étais pas passé là, si je n'avais pas passé un moment de ma vie,
Si je n'étais pas passé par cette école-là, je serais resté ignorant. En allant au CLEPT, j'ai découvert un autre monde. Parce que moi, franchement, j'avais pas accès à la connaissance. Moi, je n'étais jamais allé au théâtre. Pour moi, c'était un truc de bourge, le théâtre. Je parle vulgairement, mais voilà quoi. J'ai découvert qu'il y avait autre chose que ce que j'avais moi dans ma... comment dire... ma culture. Moi, c'était plutôt la musique, le rap, la danse, les discothèques. Je me rappelle, c'était de la danse contemporaine à la MC2. Ce n'est pas que ça ne m'a pas plu, mais c'était intéressant quand même. Même si c'était de la danse, mais quelque part, moi j'ai bien aimé quand même, parce que ça m'a fait voir autre chose. J'allais à la MC2, il y avait un certain public, je me reconnaissais pas par rapport à ce public, je n'avais pas l'impression de faire partie de leur monde, et j'ai été dans leur monde, donc quelque part, c'est possible.
Et toi du coup, tu fais quoi toi derrière ?
On révise ma gueule, hein.
Quoi ? On révise ma gueule ?
Ouais.
Ah ouais, tranquille.
Ah bah, y a plein de choses qui ont changé en 20 ans, en 21 ans maintenant. Bien parce qu'en permanence, on descend de vélo pour se regarder pédaler. Et donc, au fur et à mesure, bien, y a des choses qu'on essaye, il y a des choses qu'on laisse tomber, il y a des choses qu'on repense. Donc, il n'a jamais été rigide et figé, le CLEPT. Donc, il a beaucoup, beaucoup... évoluer, on va dire. Mais ce qui n'a pas changé, je crois, c'est les enjeux qu'il défend, c'est les quelques grands principes auxquels il est profondément attaché et qui sont toujours les mêmes. À savoir que chaque jeune, bien sûr, est capable d'apprendre, qu'il doit fréquenter des savoirs qui le font grandir, qui l'émancipent, qui lui donnent les possibilités d'être un citoyen debout pour pouvoir faire des choix, et que ça, c'est fondamental.
Dernièrement, je parlais avec un autre ancien élève qui me disait « De toute façon, moi, le CLEPT, ça me travaillera toute ma vie. » Alors j'ai ajouté « Oui, c'est clair. Après, ça change tout. » C'est vrai que ça change tout. Ça change la façon de voir les choses, car on ne regarde plus avec les mêmes yeux le reste, que ce soit au CLEPT ou ailleurs. On ne s'y prend plus de la même façon. Ça, c'est quand même pas rien. Déjà, c'est une aventure, c'est une expérience unique. Comme beaucoup d'élèves, je suis arrivée au CLEPT avec des a priori sur la scolarité. À l'école, on a eu des problèmes, des difficultés. On est persuadé que, de toute façon, on arrive avec des certitudes. Et puis on repart, on n'a plus de certitudes. Et c'est bien. On se dit, aujourd'hui, avoir des certitudes... Enfin, moi, je n'y crois plus aux certitudes. Et puis, on apprend à aller au-delà des apparences. Et ça, une fois qu'on l'a appris au CLEPT, ça se transporte ailleurs.
Et pourquoi ce projet ne s'est-il pas développé ailleurs ?
Bah parce qu'on remet trop de choses en cause. Parce que avoir des élèves qui ont été estampillés... ne peut pas faire d'études, n'est pas fait pour l'enseignement général, doit aller immédiatement faire de l'insertion professionnelle. Accueillir ces jeunes-là qui n'ont pas trouvé de place dans le système, et puis les emmener, pour certains d'ailleurs, jusqu'à un bac et ensuite un post-bac, etc., pour l'institution, c'est violent. C'est violent, parce que c'est lui dire que... Et donc, ben voilà, il y a beaucoup de freins. L'institution éducation nationale a du mal à profondément se remettre en cause. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à une période où il va falloir qu'elle le fasse très très vite, parce que le confinement, les conséquences du confinement sont en train de mettre en évidence ce qui existait déjà avant, mais encore plus maintenant, c'est-à-dire creusement des écarts énormes entre ceux qui peuvent, qui sont étayés par eux-mêmes ou par leur famille et qui arrivent malgré tout ça à tirer leur épingle du jeu scolaire et puis les autres.
C'était un zoom sur le CLEPT par ceux qui le vivent, qui l'ont vécu, qui l'ont construit. Le numéro unique de Zoom Zoom Zen. Une émission hebdomadaire qui n'eut lieu qu'une seule fois. Une création de l'atelier sonorité du CLEPT. Adam, David, Gabi, Karim, Kylian, Zaki. sous la houlette d'Émilie Forêt et Isabelle Stragliati, avec la participation des élèves de l'atelier théâtre Dan, Yula, Daniel, Simon, Marion, Zélie, Blandine, Namik, Thomas, Naomi. Sous la houlette de Agathe Vernet, Faten Chetouf, Chloé Schmutz, Sébastien Owen-Mondin. Merci à Marie-Cécile Bloch, Benoît Gerbe, Caroline Kremel. Écoutez nos créations sur soundcloud.com/ateliersonorité.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Saint-Fé, dans les ondes buissonnières, on vient d'écouter un documentaire qui s'appelle Zoom Zoom Zen, signé Isabelle Stragliati et de nombreux élèves du CLEPT, collège lycée élitaire pour tous. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ce documentaire avec ces élèves? Toi, tu es autrice radio, tu es aussi artiste du son, et puis tu es intervenue sur plusieurs mois au CLEPT dans le cadre d'un atelier qui s'appelait Sonorité.
Oui, c'est ça. Alors, l'atelier Sonorité, c'est un des nombreux ateliers qui sont proposés aux élèves du CLEPT. De octobre à mars environ chaque année. Et donc il y a des ateliers théâtre, architecture, cinéma du réel, chant, art visuel, voilà, enfin, plusieurs ateliers, tous plus intéressants les uns que les autres. Et donc moi j'interviens effectivement dans l'atelier sonorité, qui est un atelier où on manipule, bien, comme son nom l'indique, la matière sonore sous toutes ses formes. Différents intervenants au cours des années. Moi, c'est la deuxième année que j'interviens sur cet atelier. Et moi, j'ai souhaité axer plutôt cet atelier vers l'expérimentation sonore et radiophonique, ce qui est un peu nouveau dans cet atelier. Voilà. Donc, on a commencé d'abord à explorer un peu les outils d'enregistrement, des outils d'édition, de son. Il y a des écoutes aussi, on apprend à développer son écoute, voilà. Et après, on s'est dirigé vers ce projet. Ça s'est fait avec le concours des élèves, parce que moi, je ne suis pas arrivée avec un projet prédéfini. Ça se fait beaucoup d'avoir un projet. Ce n'était pas tellement dans mon idée d'avoir un projet à mener dans l'année, mais dans les autres ateliers, c'est un peu ce qui se fait. Et puis, c'est aussi sympa d'avoir un projet fédérateur. Donc, ça s'est vraiment fait en consultation avec les élèves. Et comme le CLEPT a fêté ses 20 ans l'année dernière, bon, l'anniversaire n'a pas pu être célébré à cause des conditions sanitaires. Et donc, pour marquer un peu cet anniversaire, on a eu envie, avec les élèves, de faire un documentaire pour raconter un peu leur expérience de cette école, de cet établissement particulier, unique en France, et celle des profs, et aussi des fondateurs de ce projet.
Alors, tu as travaillé avec combien d'élèves sur ce projet ou dans cet atelier sonorité?
Alors, c'est pas le plus gros groupe. On était, il y avait 6 ou 7 élèves, je crois 7 au début, et puis après 6 qui sont restés. Parce que c'est une école qui accueille les élèves décrocheurs, hein. Donc c'est des élèves qui sont en processus de raccrochage. Donc c'est pas toujours évident de garder les élèves tout au long de l'année. Donc là, il y a un des élèves qui est parti en cours d'année vers d'autres projets. Donc là, oui, il y avait Adam, David, Gabi, Karim, Kylian, Zaki, donc 6 élèves, plus une prof, Émilie Forêt, puisque dans chaque atelier, c'est aussi la spécificité du CLEPT, chaque atelier est accompagné d'un ou deux profs, suivant la taille du groupe, et les profs participent pleinement aux activités de l'atelier. Donc Émilie, elle a appris, comme les élèves, à se servir d'un Zoom pour enregistrer, elle a appris à faire du montage et du mixage sur Reaper, etc.
Et alors, du coup, les jeunes qui participent, ils choisissent de participer à cet atelier? Tu disais qu'il y avait pas mal de propositions différentes d'ateliers?
Alors oui, ils ont deux choix. On peut faire deux vœux en début d'année, des vœux argumentés, alors plus ou moins développés, hein. Des fois c'est très succinct comme argumentation, et on étudie ça avec les profs et les autres responsables d'atelier, et voilà, on constitue les groupes en fonction des choix des élèves et de l'équilibre du groupe. C'est bien qu'il y ait un élève qui ait déjà participé à l'atelier pour qu'il soit un peu moteur pour les autres, par exemple. Voilà, c'est un peu comme ça que les groupes se constituent. Mais oui, ça part d'une volonté des élèves.
Alors, comment ça s'est passé, la fabrication de ce documentaire-là ? Vous avez eu cette envie donc, de faire parler le CLEPT pour ses 20 ans, à travers, comme tu l'as dit, les élèves, des profs, les personnes qui l'ont créé. Mais comment vous avez monté tous ensemble ce projet de documentaire ? Comment vous l'avez écrit ?
Je dirais de façon assez classique. Enfin, moi, je sais pas comment tous les auteurs et autrices radio... travail, mais enfin, je me doute que tout le monde passe par une phase d'écriture. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Il y a eu une phase de brainstorming pour savoir quel angle on allait choisir, quelle forme, est-ce que c'était un documentaire déjà, quelle forme il allait prendre. Donc il y a eu cette idée de vraie fausse émission de radio qui fait un reportage sur le CLEPT, par exemple. Donc, ça, c'est une idée qui a émergé de brainstorming, de discussion avec un pastiche au début, je n'en dis pas trop, mais
oui.
Pastiche de journaliste. Voilà, et après, on a listé, en fait, ce qu'on avait envie d'entendre, d'y faire entendre, les personnes qu'on avait envie d'interviewer. Donc, on entend des profs, on entend Marie-Cécile Bloch, qui est la cofondatrice du CLEPT, on entend des élèves. Et on entend aussi des témoignages qui sont là dits par des élèves de l'atelier théâtre et qui sont issus d'un livre écrit par Marie-Cécile Bloch. Donc c'est des vrais témoignages d'élèves, mais qui sont dits par des élèves de l'atelier théâtre.
Ouais, un livre qui s'appelle « Alors, on l'a fait, cette école pour tous ». Petite
voilà,
histoire
ouais,
du CLEPT, un collège lycée élitaire pour tous.
Ouais. Passionnant ouvrage d'ailleurs. Voilà, donc oui, on l'a écrit ensemble. On a écrit les sons dont on aurait besoin, les sons d'ambiance. Et puis après, on a fait des équipes pour aller enregistrer ces ambiances. C'est eux qui ont donné rendez-vous aux profs, à Marie-Cécile pour les interviews. Et on a tourné un peu les rôles. Il y avait le preneur de son. C'est que des garçons, hein, donc je genre masculin. Il y avait le preneur de son. Il y avait un script pour noter les prises qui étaient, enfin en tout cas pour les sons d'ambiance, noter les prises qui étaient bonnes. Et ensuite on a réécouté tous les rushs ensemble. On a les interviews, noté les passages intéressants. Bon, après le montage c'est moi qui l'ai fait parce que c'était un peu compliqué à gérer tous ensemble, et puis on a assez peu de temps, hein, c'est 3 heures par semaine.
Ouais.
Et le documentaire, on a commencé à travailler dessus mi-janvier pour un rendu au mois de mars, fin mars, donc c'était un peu court. Mais voilà, sinon j'ai fait écouter les différentes versions de montage, et ce qui était vraiment, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la qualité de leur écoute. Enfin, à chaque fois j'étais bluffée par leur écoute. Hyper précise, attentive, pertinente, voilà.
Alors,
à chaque fois ils écoutaient, j'avais un peu l'impression qu'ils étaient ailleurs. Et quand on débriefait ensemble, qu'on écoutait les montages, enfin les versions du montage du documentaire ou d'autres choses, puisque chaque début d'atelier, en fait, on avait une séance d'écoute préparée par une petite méditation sur les sons. Et à chaque fois, ouais, c'était assez bluffant le retour sur les choses qu'on écoutait ensemble.
Alors toi, Isabelle, t'as quand même pas mal de l'habitude de bosser toute seule en tant que autrice radio. Tu fais pas mal de documentaires, souvent que tu fais seule.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que ça t'a apporté là de le faire avec d'autres? Et d'autant plus des personnes qui n'avaient jamais touché à ça, qui c'était une nouvelle oreille, enfin ou des nouvelles oreilles en tant que preneur de son, et puis aussi des nouvelles bouches qui racontent des choses. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi ?
Déjà, c'est hyper rafraîchissant, hein, d'avoir leur énergie, leur enthousiasme, leur c'est la première fois qu'ils faisaient ça, donc c'était hyper spontané, frais. Et moi, ça m'a obligée, effectivement, comme tu l'as dit, je travaille la plupart du temps seule. Et je n'ai pas fait d'école, hein, de documentaire. J'ai appris sur le tas en le faisant. Et donc, je ne sais pas si ma méthode, c'est... Enfin, en tout cas, c'est ma méthode. Je ne sais pas s'il y a une méthode, mais ça m'a obligée, en tout cas, à avoir un regard sur... à regarder un peu comment je travaillais, en fait, pour pouvoir le transmettre, tout simplement. Donc, cette phase d'écriture, pour la mener, moi, j'étais obligée de me rappeler comment je fais quand je fais sans y penser pour moi, en fait. Voilà. Donc, bon, en soi, pour cet aspect-là, ça m'a apporté beaucoup, en fait, sur un regard sur ma propre pratique que j'avais pas forcément, dont j'avais pas forcément conscience, parce que c'est quelque chose qui se fait de façon assez spontanée, finalement. Voilà, enfin, en tout cas, à chaque fois que je sortais de cet atelier, j'avais la pêche, quoi. Donc ça, je crois que c'est un signe qui ne trompe pas.
C'est beau. Et les élèves, j'imagine qu'ils t'ont fait des retours, où il y a eu peut-être une séance d'écoute qui a été proposée au sein de l'établissement. Et quelles ont été leurs réactions? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils retiennent de cette histoire?
Ils ont été très contents, les élèves de l'atelier, parce qu'ils étaient assez fiers d'avoir réussi à présenter un objet qui tient, que chacun peut écouter et comprendre, et qui donne une image qui leur correspond, quoi, de leur établissement et de ce qu'ils vivent. Je crois qu'ils étaient assez fiers de ça. Oui, effectivement, il y a eu une écoute. Plusieurs écoutes. Il y a toujours une restitution d'atelier en fin d'année. Donc là, ça s'est fait en plus petit comité. D'habitude, c'est une restitution publique. Bon, là, ça n'a pas été possible. Mais voilà, on a fait une petite mise en scène. Ils avaient envie de mettre en scène, en fait, cette présentation. Donc, on a fait comme si on était dans un studio radio avec un panneau on air, des casques. Donc voilà, c'était assez rigolo. Mais on a eu des très bons retours. Ouais, tout le monde était content.
Alors, tu as dit tout à l'heure que les interviews, c'était les jeunes qui les faisaient, les textes étaient lus par des jeunes issus d'un bouquin écrit par Marie-Cécile Bloch. Tu as dit que le montage, c'était plutôt toi qui t'y étais mise, faute de temps. Il y a de la musique aussi. La musique, elle vient d'où?
Alors, la plupart des musiques ont été réalisées en atelier, donc soit cette année, des musiques et des sons, soit cette année, soit l'année dernière. Sauf là, voilà, à quelques exceptions près, il y a une musique que j'ai composée moi, une autre musique qu'on a libre de droit, qu'on a faite sur Internet, et une composée par Loïse Bulot, une compositrice électroacoustique. Et sinon, oui, la majorité des sons ont été faits en atelier, en fait.
Et donc par ces mêmes élèves?
Par ceux-là ou les élèves de l'année dernière, de l'atelier sonorité.
Alors, est-ce que tu sais si l'année prochaine tu vas réintervenir du côté du CLEPT à Grenoble?
Bon, a priori, oui. En tout cas, je n'ai pas eu de signe contraire.
Ok. Et du coup, est-ce que tu as des petites idées en tête sur ce que vous allez faire? Est-ce que l'idée de refaire un documentaire radio, ça te travaille ou pas?
Je n'ai pas vraiment d'idée précise pour le moment. Je pense que je resterai dans le même état d'esprit, c'est-à-dire pas forcément arriver avec un projet défini, plutôt voir comment ça se passe avec le groupe et évoluer selon les envies. Mais je me dis peut-être ça pourrait être intéressant de se frotter un peu à la fiction radio. Voilà.
Mmh. Oui, et ça peut les intéresser aussi, hein, les élèves. Eh ben merci beaucoup Isabelle. Si on veut retrouver ton travail, tu as un site internet, je crois?
Oui, c'est noianosound.net, donc noianosound.net. Mais si on cherche mon nom dans les moteurs de recherche, on trouve
Isabelle Stragliati. Donc merci beaucoup, oui. Isabelle, d'avoir partagé cette expérience sur ce documentaire réalisé avec les jeunes du CLEPT, Zoom Zoom Zen. Vous pourrez le retrouver, chères auditrices et auditeurs, sur le site de la radio, rubrique émission de la rédaction et les ondes buissonnières. Merci beaucoup Isabelle.
Merci.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent. Non. Diffusion sonore pour oreille encrassée.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.